Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alia Tovin, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Constance Lutte-Couillère. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Bruno Gagnard-Fontani.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nouvelle série consacrée cette semaine à une profession qui rassemble contre elle toutes les critiques depuis la crise de 2008. Un corps de métier dont la mauvaise réputation ne date pas d'hier, mais qui est pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'économie. Les banquiers, vous l'aurez compris, seront au cœur de nos réflexions cette semaine. Jeudi, nous verrons comment les banques tentent de se réinventer face aux nouvelles règles du jeu et à la concurrence des banques en ligne. Mercredi, on se demandera si le financement de l'économie peut tout simplement s'affranchir de l'industrie bancaire. Demain, enfin, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne, devenue incontournable, que nous interrogerons. Mais d'abord, revenons aux origines du métier de banquier, depuis les places de foire du Moyen-Âge jusqu'à la Banque Universelle. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire de la banque et des banquiers en compagnie de Sabine Efos, professeure d'histoire économique et sociale contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, en compagnie également d'Hubert Bonin en duplex de Bordeaux, professeur d'histoire économique à Sciences Po Bordeaux et auteur de « La banque et les banquiers en France, du Moyen-Âge à nos jours » paru aux éditions Larousse. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour Sabine Efos et Hubert Bonin.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'histoire de la banque, on va le voir, c'est l'histoire d'une démocratisation. On va en fait passer, Hubert Bonin, d'un système bancaire réservé aux rois puis aux grands bourgeois à une banque ouverte à tous. On peut le dire comme ça ?
Je ne le pense pas, parce que Laurence Fontaine a bien montré que dès les temps modernes, la banque était enracinée dans les terroirs des petits commerçants, petits marchands, nomades, je dirais, transitant entre les régions multiples de la France et les grandes places hors savantes débouchées en Suisse, en Allemagne, enfin leur future Allemagne. Et par conséquent, on avait du crédit. L'économie du crédit était tout de même déjà très décentralisée. Mais vous avez raison, cependant, parce que les grosses sommes d'argent était bien véhiculé par les appareils d'État ou les appareils religieux qui finançaient soit les armées, soit la vie des administrations religieuses transeuropéennes.
L'histoire d'une démocratisation peut être une vision un peu simpliste, mais qui montre quand même les grandes tendances depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Banque universelle que l'on connaît, Sabine Efos.
Alors effectivement, si on parle de démocratisation au sens moderne, c'est-à-dire grosso modo au sens du XXe siècle, la grande rencontre des banques et des Français s'effectue à la fin des années 1960, début des années 1970, dans le contexte d'une modernisation économique et sociale de la France, et également grâce à l'évolution des modes de paiement, à la fois les modes de paiement, le chèque et la carte bleue qui apparaît en 1967, mais aussi la mensualisation des salaires qui rend obligatoire la possession d'un compte en banque.
On va revenir sur toutes ces étapes très importantes. Mais d'abord, commençons par l'apparition de cette profession de banquier au Moyen-Âge. Elle va se développer, Hubert Bonin, avec l'essor du grand commerce à partir du XIe siècle.
Disons qu'elle avait déjà existé sous l'Antiquité. Mais la France, entre autres, a vécu un grand effondrement avec la dislocation de l'Empire romain. Il faut donc construire une nouvelle économie bancaire franco-européenne, dirais-je. Et c'est vrai que le but est de faire circuler l'argent permettant de faire circuler les marchandises et permettant de faire vivre les armées ou l'Église. Par conséquent, il faut trouver des rouages animant ces flux, puisqu'un banquier, c'est un homme de flux, c'est un homme de gestion de moyens de paiement, c'est un homme de change, cambio, c'est un homme enfin de crédit. Mais les trois activités, les trois fonctions sont évidemment liées. D'où le passage permanent du banquier local régional à des banquiers transnationaux à l'échelle européenne pour cette époque. Et nous ne parlons pas de l'Asie ou du Moyen-Orient aujourd'hui.
Vous l'avez
Par conséquent, cette renaissance cette reconstruction, elle s'étale en effet du XIe au XVe, XVIe siècle. C'est une proto-renaissance, c'est la renaissance d'un marché de l'argent qui accompagne la renaissance des connexions commerciales à grande échelle à travers l'Europe, de place marchande en place marchande.
Alors n'allons pas trop vite, Hubert Bonin. Vous l'avez dit d'abord, la profession de banquier est indissociable de celle du marchand et c'est aussi ce que nous expliquait Giacomo Todeschini. Il répondait aux questions d'Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire le 14 mars 2012.
Au XIIIe siècle, on commence à définir toute une série de cas dans lesquels on peut prêter à intérêt, on peut admettre l'intérêt comme compensation d'un trafic d'argent. Et en fait, le paiement de l'intérêt est vu comme une compensation d'un travail. On commence à raisonner sur le fait que le marchand, disons, le marchand banquier, le marchand qui est expert du trafic d'argent a une compétence, mais c'est pas seulement le métier de faire du commerce, mais de faire circuler l'argent, de le faire fructifier. Donc, on parle d'une subtilitas, par exemple, d'une subtilité du marchand, justement dans les textes de franciscains, par exemple. Et donc, on découvre dans le grand marchand, dans le marchand banquier, toute une capacité de donner un signifié, disons, social, économique à l'argent.
C'est donc progressivement, entre les 11e et 15e siècles, que sont mises au point en Europe occidentale ces méthodes qui vont finalement perdurer jusqu'au tournant du 20e siècle, Hubert Bonin.
On a toujours aujourd'hui des places d'échange, hein, Chicago, Genève, etc. Donc ce qui est important, c'est de voir émerger des places d'échange qui sont des places commerciales et des places de crédit. Donc tout le monde connaît les foires, les grandes foires marchandes. En France, on avait trois, on a eu Genève, il y a Leipzig, Nijni Novgorod, etc. Et ces foires se tenant tous les 3 mois ont donné naissance au crédit à 3 mois. À l'escompte à 3 mois, ou aux effets commerciaux à 3 mois, qui ont perduré jusqu'à la loi d'Ailly dans les années 1970. Par conséquent, on est bien dans la logique de faire circuler, non pas de l'argent en tant que tel, mais du papier monnaie, de la monnaie de banque. Et par conséquent, au-delà du matériel, faire circuler ce papier, ce qui compte, c'est la réinvention, la consolidation de la notion de confiance. Dès lors que, et ce qui aide à la notion de confiance, c'est le système de correspondant, aujourd'hui correspondant banking, mais ça date du Moyen-Âge, c'est-à-dire faire circuler du papier, mais faire circuler aussi de l'information. C'est-à-dire des échanges nourris de lettres qui font le bonheur des historiens qui les trouvent dans les archives, la correspondance de tel banquier avec tel banquier d'une place à une autre pour lutter contre ce qu'on appelle l'asymétrie d'information.
Et en même
puisque
temps,
les marchands peuvent mentir sur la qualité de leurs produits, sur les quantités de produits et sur leurs marges bénéficiaires. Et par conséquent, le banquier est toujours en lutte pour obtenir une relation de confiance vis-à-vis de son débiteur, mais également vis-à-vis des autres banquiers qui relayent le crédit sur les autres places.
Et en même temps, déjà au Moyen-Âge, Hubert Bonin, les hommes d'argent souffrent d'une mauvaise réputation. Ils sont pointés du doigt par l'Église notamment. Donc en fait, le banquier fait déjà face à cette contradiction. D'un côté, son activité est indispensable, mais en même temps, elle est considérée comme malsaine.
C'est toujours le problème de l'usure, parce que l'Église a souvent confondu banque et usure, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le métier de crédit était très décentralisé. Il y avait partout des usuriers qui prêtaient aux petits. Et ces usuriers, des pawn shops, comme on dirait aux États-Unis aujourd'hui, et ces usuriers, évidemment, entretenaient une image de marque mauvaise, puisque leur taux d'intérêt était très élevé. Donc il y avait une confusion entre, évidemment, ces usuriers, les banquiers, parfois les notaires qui surgissent un peu plus tard et qui jouent un rôle clé dans le crédit. Et dès lors, il est vrai qu'au niveau des valeurs morales, une partie de l'Église, en appelant à la pauvreté, a évidemment remis en cause la position sociale et morale des banquiers. Mais il ne faut pas oublier que la majorité de l'Église était elle-même une énorme banque, faisant circuler tous les revenus de l'Église à travers l'Europe, vers Avignon, vers Rome, ou les grosses abbayes faisant circuler l'argent de leurs grandes propriétés agricoles ou forestières.
Alors,
par conséquent, c'est vrai qu'il y avait une espèce de distorsion cognitive au sein de l'Église.
Alors je vous propose justement d'écouter ce que dit Thomas d'Aquin du prêt à intérêt au XIIIe siècle dans sa Somme de théologie.
Le prêt à intérêt n'est pas par lui-même un péché. On est toujours en droit de recevoir un objet que son propriétaire offre librement. Or, l'emprunteur offre librement un intérêt au prêteur. Ce dernier a donc le droit de le recevoir. En sens contraire, il est écrit dans le livre de l'Exode « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui vit avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier. Tu ne l'accableras pas d'intérêt. » Recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est de soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas, ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice. Quant à l'argent monnayé, Aristote remarque qu'il a été principalement inventé pour faciliter les échanges. Donc son usage propre et principal est d'être consommé, c'est-à-dire dépensé, puisque tel est son emploi dans les achats et les ventes. En conséquence, il est injuste en soi de se faire payer pour l'usage de l'argent prêté. C'est en quoi consiste l'usure. Et comme on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même on est tenu de restituer l'argent reçu à titre d'intérêt.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. L'Église, on l'a dit, va longtemps condamner l'usure, même si ce que Thomas d'Aquin dénonce ici, c'est surtout le fait d'imposer des taux d'intérêt et des taux d'intérêt souvent trop élevés, Sabine Fosse.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'Église réagit en favorisant la création de ce qu'on appelait les Monti dei Paeschi, c'est-à-dire les Monti Pieti à partir du XVe siècle dans le nord de l'Italie, de manière à pouvoir prêter de l'argent, mais à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles que ce qui a été pratiqué. Et ces Monti Pieti vont essaimé à travers l'Europe, et on en retrouve en France dans sa première forme au XVIIe siècle, puis ensuite renouvelé à partir de la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Donc le Monti Pieti, appelé aussi matante, mais on y reviendra pour la période plus récente.
Et en même temps, on l'a dit, l'Église a besoin des banquiers pour financer les croisades, Hubert Bonin. L'usure avait été condamnée par plusieurs conciles, dont celui de Latran en 1179, et il faudra attendre un autre concile de Latran, celui de 1515, pour autoriser en enfin, les taux à intérêt.
Oui, certes, mais les pratiques avaient anticipé ce concile, hein, bien évidemment. Toute église comportait une partie d'intendance, tout grand groupe monacal comportait une partie de gestion des biens. Il fallait bien que les abbayes vendent aussi leurs récoltes, leur bétail, leur production, et les vendaient à des marchands. Et par conséquent, les marchands les payaient avec retard et avec des délais. Et dès lors, on enclenchait un système de durée. Dès qu'on introduit une notion de durée, au-delà du comptant, du cash, on entre dans la notion de taux d'intérêt. Que ce soit direct ou que ce soit, je dirais, indirect, en faisant des ristournes en nature. Bon, bien évidemment. La réalité était bien dominante. La papauté vivait sur un train de vie qui montrait bien qu'elle pratiquait, si je puis dire, un peu de gestion d'actifs, pour être un petit peu anachronique, et qu'elle maîtrisait bien les métiers de l'argent, bien sûr.
On a parlé de la mauvaise réputation des banquiers, qui est peut-être aussi ancienne d'une certaine façon que le métier lui-même. Et alors ce rejet du banquier par la population est peut-être également teinté de xénophobie, Hubert Bonin, puisque à l'époque le banquier c'est l'étranger, c'est souvent l'italien.
C'est vrai. Cela dit, sur beaucoup de places, l'image de marque du banquier n'était pas si mauvaise que cela, je m'en excuse. Mais que ce soit en Italie, en France ou dans l'Europe du Nord-Ouest, les banquiers finançaient des chapelles d'églises, pratiquaient de la philanthropie, finançaient des œuvres sociales chrétiennes, finançaient des peintres développant des œuvres pieuses, et par conséquent, ils étaient déjà soucieux de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication institutionnelle. C'était soucieux de leur image de marque. Et ils n'ont pas laissé leur image se détériorer sans réagir.
Alors,
à chaque fois, ils s'engageaient dans une certaine politique de ce qu'on appelle aujourd'hui du mécénat qui permettait de compenser cette mauvaise image de marque. Par ailleurs, vous parlez des étrangers. C'est vrai, beaucoup d'Italiens, mais l'Italie elle-même, c'était un certain nombre de places éclatées entre Florence, Venise, Parme, Turin, Gênes, etc., comme l'avait montré Jacques Herz jadis, qui se sont implantés en France, se sont implantés dans les Pays-Bas, Bruges par exemple, Anvers ensuite, et par conséquent, oui, c'était des étrangers, mais ces étrangers étaient, représentaient des familles enracinées sur au moins un siècle, souvent même deux siècles, et ils étaient souvent insérés dans la nationalité de la place. Ils s'enracinaient, comme on dit aujourd'hui en économie de gestion, et ils créaient des sociétés sœurs insérées fortement dans la communauté de place, dans la communauté des bourgeoisies. Et dès lors, au fond, certes, ils étaient d'origine italienne, comme les Bonini à Lyon au XVe, XVIe siècle, mes lointains ancêtres, mais ils sont devenus consuls de Lyon, ces Bonini. Ils étaient, je dirais, nationalisés de facto, et devenaient, d'autant plus que beaucoup d'entre eux devenaient des conseillers des autorités bourgeoises, religieuses, et des autorités royales.
Et alors le fait que les banquiers soient pour beaucoup italiens dans cette période qui va du XIe au XVe siècle, c'est aussi ce qui explique l'origine du mot banque. On désigne les banquiers lombards par l'expression banco di scritta. À quoi est-ce que ça fait référence ?
Voilà, c'est cela, oui, bien sûr, oui. Et puis même lombard est devenu un petit peu symbolique de banquier en France du XIIIe siècle.
Alors il faut expliquer, banco di scritta, ce sont ces tréteaux que les banquiers dressaient dans les foires de France, parce que très concrètement, le métier de banquier à ce moment-là, Hubert Bonin, c'est d'évaluer les monnaies sur des tréteaux dans les foires et de vérifier la proportion de métaux fins dans l'alliage, par exemple.
Oui, à l'origine, c'est ça. On voit ça sur les tableaux, sur de nombreux tableaux du Sud, surtout de l'Europe du Nord, avec la petite balance qui sert à soupeser les pièces, bien entendu. Les banquiers faisaient du change d'abord, et ensuite, ils échangeaient du papier contre de la monnaie métal. Bon, bien évidemment, très vite, la majorité des banquiers n'avaient pas leur petit stand comme ça. Ils avaient leur maison bourgeoise et c'était par sac que de sacs de papier et sacs de métal que se faisaient les échanges. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu, adapté aux petits et moyens marchands, petits et moyens artisanats, petits et moyens armateurs, qu'il y a toujours eu, bien entendu, des petites agences informelles, comme on dirait aujourd'hui, un magasin éphémère.
Des banquiers qui bénéficient des écarts de valeur entre les monnaies, entre le florin de Florence, le ducat génois et l'écu français, par exemple. Il y a des écarts importants. C'est déjà de la spéculation, en fait, Hubert Bonin.
C'est ce qu'on appelle spéculation. On peut appeler ça aussi échange en fonction du spread, on dit aujourd'hui, sur la banque de marché.
L'écart.
L'écart, voilà, de valeur, de place en place. Et bien sûr, on cherche déjà, c'est déjà une science, je dirais, de l'échange de valeurs, de la fixation de taux de monnaie en fonction des difficultés politiques, militaires qui peuvent surgir, en fonction des tensions de récolte aussi, de mauvaises récoltes, en fonction de tel ou tel bateau qui va couler, qui a coulé, qui est en retard. Donc on sait qu'on va manquer de marchandises, qu'on va manquer peut-être parfois même de monnaie métal, donc les valeurs bougent, bien entendu. Le banquier, il est hyper informé, même si ces informations se font à cheval ou par bateau, c'est-à-dire que les lettres sont envoyées, prennent plusieurs semaines pour arriver. Mais le premier qui a la nouvelle, il peut lui faire monter son taux d'intérêt avant les autres et faire sa petite pelote, en effet.
Et vous dites que l'image de...
On est dans le capitalisme, hein, c'est le proto-capitalisme. Bien sûr, mais c'est du capitalisme.
Vous dites, Hubert Bonin, que l'image de marque des banquiers n'est pas si mauvaise. Mais alors, comment expliquer les émeutes contre les marchands financiers en 1382, puis à nouveau au début du XVe siècle ?
Tout ça, les Ciompi...
Comment l'expliquer ?
L'envoi au bûcher d'un certain nombre de banquiers liés aux Templiers, etc. Bien entendu, ben c'est récurrent, c'est comme aujourd'hui. Hein. À un moment donné, lorsqu'il y a une mauvaise, très mauvaise conjoncture, les taux d'intérêt deviennent élevés, les marchands n'arrivent plus à repayer leurs dettes, et cela crée un blocage, et évidemment on cherche du côté du grand capital, même si ce grand capital de l'époque est minuscule à l'échelle du monde actuel. Mais c'est vrai. vrai, il y a des sursauts, mais qui ne sont pas permanents, je dirais. Cette antinomie, elle s'explique aussi dans le quotidien de la rue. On a déjà des riches bourgeois qui circulent au milieu d'une plèbe énorme, et dans chaque ville, et le Paris de Jean Favier pour le 15e siècle, analysé par Jean Favier, est révélateur de cette distorsion sociale, sociétale. Bon, bien évidemment, c'est la très grande bourgeoisie.
C'est aussi ce qui explique qu'à la fin du 14e siècle, Philippe le Bel bannit les juifs du royaume et va même jusqu'à vendre leurs biens.
Alors cet aspect antisémite est récurrent lui aussi, il les bannit, mais ils sont là très vite, je dirais, parce qu'ils ont eux aussi leur réseau à travers l'Europe, y compris jusqu'à Londres, et on a besoin de ces communautés pour faire circuler une partie de l'argent. Donc on est, comme aujourd'hui, face à des pulsions. On ne peut pas nationaliser les banquiers comme on l'a fait ici ou là en 46 ou 82, Sabine en parlera certainement, mais on les met sur le bûcher, si l'on peut dire, ou on leur confisque leurs biens, évidemment.
Et alors Hubert Benin, comment comprendre que les banquiers soient, comme on l'a dit, d'abord italiens, plus précisément lombards, comment sont-ils devenus les banquiers de ce négoce entre l'Orient et l'Occident méditerranéen?
Parce que les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident s'ouvrent, pas seulement les fameuses épices, aussi le sucre, mais aussi des produits alimentaires qui circulent, des céréales, mais aussi le développement de l'industrie de la laine, notamment en Italie et autour de la Méditerranée, de l'Andocienne, etc. Donc on a à ce moment-là un savoir-faire transnational, je dirais, qu'est-ce que soit la nation de nation à cette époque, transméditerranéen, qui explique cette vitalité des places italiennes, enfin futures italiennes, et ce dynamisme. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que l'Italie a des productions agricoles à vendre, parce que l'Italie a de la soie à vendre, et des produits de haut de gamme aussi à vendre. Et par conséquent, ce luxe est exporté vers un certain nombre de cités européennes qui, elles-mêmes, disposent de bourgeoisie pouvant acheter des produits de très haut de gamme, bien entendu. Donc on est là dans la production de marge. Les Italiens ont été parmi les premiers à, au fond, développer cette accumulation de capital grâce à des marges sur les échanges commerciaux, sur l'armement maritime et sur les échanges d'argent. Et c'est ainsi que ce processus d'auto-accumulation s'est déployé. Mais très vite, la Hanse, les pays de la Hanse, très vite les pays de la mer du Nord, que l'on pense à Bruges, de la Manche et un peu également, ensuite avec
Londres. Vont développer ces activités
tous
également.
Ces pays ont très vite pris le relais.
Et alors, il faut attendre la Renaissance pour voir apparaître des grands établissements bancaires qu'on peut dire internationaux, comme vous disiez. Ce sont notamment les Médicis à Florence, les Médicis qui vont devenir donc créanciers et en même temps conseillers des rois, avec une déontologie quelque peu douteuse parfois, Hubert Benin.
Disons que c'est les ancêtres des transnationales, oui. Une dizaine de grandes familles italiennes ont eu des succursales à travers l'Europe, mais également des marchands séatiques se sont développés dans toute l'Europe du Nord-Ouest et également l'Europe centrale. Dès lors, on a une puissance de mobilisation d'argent, de mobilisation d'informations qui explique que ces transnationales, à l'échelle de l'époque, bien sûr, soit efficace et pu animer les places, au fond, avec des capitales de capital, du capital, comme dirait Youssef Cassis, l'historien anglais. Et ces capitales du capital ont été animées par une bourgeoisie d'affaires, bancaire, marchande, qui, évidemment, parfois catholique, parfois protestante, ici ou là israélite. Mais la France, également, a sécrété cette bourgeoisie, au fond, la leçon les Italiens ont été une grande école d'apprentissage pour la France. Je rappelle que Jacques Coeur a été un grand marchand, un grand banquier autour du Val-de-Loire, quand la cour était au Val-de-Loire, et plus tard, début du XVIIIe siècle, Lyon n'était plus seulement tenu par les Italiens, mais Samuel Bernard était depuis Lyon un très grand banquier à l'échelle de toute la France, jusqu'à sa chute, évidemment. Il faut insister, peut-être que vous m'interpellerez là-dessus, il faut insister sur la fragilité de cette économie.
Oui, alors on va y revenir, mais je parlais de déontologie, voilà. Hubert Bonin, parce que les Médicis vont avancer des fonds à la fois au roi Louis XI et en même temps à son ennemi juré, Charles le Téméraire, au XVe siècle. On voit l'aspect très très politique de ces prêts d'argent à ce moment-là.
Oui, n'oublions pas que pendant les guerres napoléoniennes, les Rothschild de Londres faisaient circuler de l'argent par la France en direction de l'Espagne, ennemi de la France. N'oublions pas qu'aujourd'hui aussi, des flux d'argent et d'armement, c'est financé par des flux d'argent, circulent de façon bizarre à l'échelle géopolitique du monde. Donc c'est vrai que le cynisme n'est pas un péché pour les banquiers. Ils peuvent manger à tous les râteliers. Oui, c'est... D'un autre côté, les Médicis eux-mêmes, ensuite, se sont trouvés entraînés dans des guerres qui les ont, sur place, je dirais, menacés, ont remis en cause leur pouvoir temporairement, à Florence même. Donc, eux-mêmes, en brisant cette morale, ces codes moraux, ont permis à leurs adversaires de ne pas respecter les codes moraux.
Ça s'est retourné contre eux. Alors, qu'il faut peut-être préciser, Hubert Bonin, c'est la différence entre les banquiers d'un côté et les financiers de l'autre, les financiers qui sont chargés de la fiscalité du royaume. C'est deux professions distinctes.
Distinctes en partie, puisque une partie de ces financiers eux-mêmes, qui obtiennent une sorte de marché public de recouvrement de l'impôt, eux-mêmes sont immiscés dans cette économie mondiale. Eux-mêmes vont prêter de l'argent aux places, eux-mêmes vont faire du financement de commerce. Donc chaque métier n'est pas isolé dans des silos, je dirais. Mais ça, c'est un nouveau métier qui a surgi. C'est la mise en vente des charges publiques d'un côté et le prélèvement de l'impôt. Parce que les États se faisant la guerre, comme la France, est surendettée. La France ayant déposé son bilan, je dirais, une demi-douzaine de fois, jusqu'à la septième fois en 1797, eh bien, la France avait besoin de, on parle de la France, de lever des fonds. Et par conséquent, déconcentrer la collecte de l'impôt auprès de financiers était au fond un bon moyen, mais plus avant, vers le XVe siècle, on demandait à l'Église de fournir des fonds à l'État. De même, l'État vendait des charges à des bourgeois qui l'anoblissaient en partie en faisant un créant de la noblesse de robe. Donc là, je dirais la fluidité entre les différentes fonctions, les différentes positions a été une récurrence, bien sûr. Même si cette ferme, les fermiers généraux, sont devenus de plus en plus honnis à la fin du XVIIIe siècle, bien évidemment.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Je me sens comme une banqueuse. Et pourtant je n'ai ni livre, ni dollar, ni sous. Mais je me sens comme une banqueuse. Tout en étant pauvre comme un toutou. Oui, je me sens comme une banqueuse. J'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit. Mais je me sens comme une banqueuse. Qui aurait 10 millions de profits. J'ai trouvé ce matin un petit dieu lutin qu'il m'a dit l'ermitain. Il faut vite ouvrir tes portes, c'est l'amour que je t'apporte. Et je me sens comme une banqueuse. C'est le bonheur qui m'arrive car c'est bien mon tour. Et je me sens comme une banqueuse. Est-ce vous, est-ce moi, c'est l'amour. Vous savez, 3 ou 4 millions non, jamais ne remplaceront un beau garçon. un regard, un sourire. Tout d'abord, deux bras qui vous serrent bien fort, valent tous les trésors. Je me sens comme une banque, et pourtant je n'ai ni lit, ni dole, ni sous, mais je me sens comme une banque. Tout en étant pauvre comme un toutou, oui, je me sens comme une banque. Je n'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit, mais je me sens comme une banque. Qui aurait 10 millions de profits, j'ai trouvé ce matin un petit Dieu lutin qui m'a dit l'ermitain. Il faut vite, 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 c'est l'amour que je t'apporte, je me sens comme une banque. Et le bonheur qui m'arrive, car c'est bien mon tour, et je me sens comme une banque.
Comme une banque de Joséphine Baker, Comptez-moi la banque, c'est notre série cette semaine dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Et nous poursuivons notre histoire de la profession de banquier avec Sabine Efos et Hubert Bonin. Alors dans la seconde moitié du 18e siècle, les banques deviennent plus importantes et sont désormais à même de financer la proto-industrialisation. Mais c'est seulement au 19e siècle, Hubert Bonin, après les bouleversements de la Révolution française, que vont apparaître les établissements de haute banque. Le métier de banquier va vraiment commencer à se moderniser à ce moment-là.
Je vous corrigeais, excusez-moi un moment, parce que la haute banque est à cheval sur la Révolution française, comme l'a bien montré Lutti jadis. Donc des maisons de haute banque se créent dès les années 1760-70, mais il est vrai, vous avez entièrement raison, que le choc de la Révolution a suspendu quelque peu le mouvement, mais sous le Consulat et l'Empire, il y a déjà un renouveau, à nouveau freiné par la fin des guerres impériales et la défaite. Et évidemment, les années 1820-40 sont un flamboiement. C'est la naissance de la première révolution bancaire qui voit se développer à l'échelle européenne et en France les maisons de haute banque, les merchant banks en Grande-Bretagne, ou des maisons de haute banque aussi en Suisse, évidemment, en Allemagne, sous d'autres noms. Et par conséquent, on est là dans une explosion bancaire. Il faut le souligner, sans aucune régulation bancaire en France avant 1941-46, contrairement au Royaume-Uni qui met en place des lois dans les années 1820, c'est la loi du marché, c'est le libéralisme intégral, c'est l'explosion des maisons de haute banque. Le symbole en est bien sûr les Rothschild qui s'établissent sur plusieurs places, 5 places européennes. En 1819, c'est le bicentenaire, se crée la maison Packard qui est l'ancêtre d'une banque de Genève, Mirabeau, et par conséquent on est dans ce flamboiement des maisons de haute banque, les Perrier, les Fould, et même un Fould qui devient ministre des Finances sous Napoléon III, bien entendu.
Et ce sont des banques, Hubert Bonin, pardon de vous interrompre, qui vont accompagner la révolution industrielle et se livrer à une concurrence féroce. Je vous propose d'écouter l'historien Alain Plessis. Il était reçu par Jean-Noël Jeannonet dans Concordance des temps.
En France, dans toute l'Europe, les deux banques se disputent, se déchirent pour obtenir des affaires de chemin de fer, des affaires de crédit foncier, des affaires de crédit immobilier qui se créent un peu partout, etc. Mais quand on en regarde de plus près, ça dépasse de beaucoup une question de simple intérêt, et on y voit des conflits entre deux hommes, non seulement des conflits économiques, mais des conflits sociaux, et on a même l'impression que ces deux hommes d'un côté, il y a un homme, James de Rothschild, qui a réussi à être le roi des banquiers. Et de l'autre côté, il y a deux jeunes juifs d'origine bordelaise, plus jeunes que lui, qui ont commencé par travailler pour lui, les Perrer. Il y a donc d'abord le roi des banquiers, ulcéré de voir ses anciens, presque employés, rivaliser avec lui brutalement.
Sabine Efos, la concurrence devient plus rude à mesure que les enjeux augmentent?
Oui, tout à fait. À partir du milieu du 19e siècle, en fait, les enjeux industriels appellent la mobilisation d'un grand nombre de capital, enfin de mobilisation des capitaux. Et donc, après la crise économique et financière de 1848, on assiste à la reconstruction du système financier en France, avec notamment la création des comptoirs nationaux d'escompte, donc le comptoir de Lille, le comptoir de Paris, l'ancêtre de la BNP, etc. Et donc, on a un besoin de drainer des capitaux pour financer notamment la construction des chemins de fer, pour financer également les grands travaux d'Haussmann et l'urbanisme. Donc Alain Plessis a parlé implicitement du crédit immobilier des frères Perrère. Il y a également la création 1852 du Crédit foncier de France, donc qui est un organisme semi-public créé par Napoléon III pour financer les grands travaux d'Haussmann. Et donc les Perrère, le Crédit immobilier, le Crédit foncier de France, mais aussi d'autres banques qui vont financer l'industrie, le Crédit industriel et commercial créé en 1859, sont de nouveaux établissements qui vont financer ces investissements industriels, le chemin de fer, la sidérurgie, les grands travaux d'aménagement foncier, notamment le drainage des Landes, par exemple, qui font partie de la prospérité économique du Second Empire.
Donc c'est véritablement le développement des banques d'entreprise, et c'est lié au fait que dans la seconde moitié du 19e siècle, les fortunes françaises investissent plutôt dans des actifs financiers plutôt que dans la terre ou dans la pierre.
Alors, les deux, en fait, enfin, la diversification des patrimoines est une règle d'or, évidemment, comme prudence, hein, pour faire fructifier son patrimoine. Mais il est vrai que l'émission des actions pour financer les compagnies de chemin de fer ont impliqué pas mal d'investissements des Français dans ce secteur. Donc, le marché financier prospère à travers donc ces ventes d'actions, mais aussi d'obligations. Et les grands travaux d'Haussmann favorisent l'investissement dans l'immobilier, qui est une caractéristique française établie.
Il y a les grandes banques parisiennes et vous l'avez dit aussi des banques locales qui se développent un peu partout en France. Vous avez parlé des comptoirs d'escompte. Justement, quel rôle l'escompte joue-t-il dans le développement de la circulation de l'argent ? En quoi est-ce que cela consiste ?
Alors, l'escompte permet en fait de régler le problème de la différence en termes de délai de paiement entre le paiement des fournisseurs et le fait que l'entreprise soit payée par ses clients. Donc, l'escompte est véritablement l'opération phare pour toutes les banques, y compris la Banque de France, d'ailleurs, hein, qui a depuis 1848 le privilège d'émettre la monnaie, mais qui conserve aussi cette activité commerciale d'escompte.
Et qui existe depuis 1800.
Et qui existe effectivement depuis 1800. Et donc, la Banque de France elle-même crée un réseau de succursales pour faire en sorte de faciliter la circulation de l'argent, de financer l'économie pendant tout le 19e siècle. Et la Banque de France est même un concurrent de ces grandes banques que j'ai citées, que ce soit le CIC, vous avez également le Crédit Commercial de France et le Comptoir National d'Escompte de Paris, parce que elle permet de fluidifier en fait le circuit de l'argent et du crédit sur toutes les places bancaires. Donc là, je pense qu'il est important aussi de noter maintenant la constitution des réseaux bancaires tels qu'on les connaît en fait aujourd'hui, qui sont apparus dans cette seconde moitié du 19e siècle.
En quoi consistent alors ces réseaux bancaires, Sabine Efos ?
Alors, ces réseaux visent à drainer les liquidités. Hein, ça, je pense que c'est l'objectif essentiel. Drainer les liquidités, pourquoi ? Parce que sinon, les Français ont tendance à thésauriser, à conserver l'argent. C'est les fameux madeleines, conserver l'argent sous le matelas. Et donc, ces réseaux visent par la proximité à inciter les Français à déposer. Alors, les Français les plus aisés, bien évidemment, les plus modestes se tournant comme les ouvriers vers les caisses d'épargne hein, pour épargner le peu qu'ils ont en plus des dépenses dont ils doivent faire face aux dépenses de logement et d'alimentation bien sûr. Et donc pour les Français les plus aisés, l'intérêt c'est de capter ces dépôts, de drainer ces dépôts afin de favoriser le financement de l'économie. C'est une problématique que l'on retrouve aujourd'hui mais qui existait depuis bien longtemps.
Vous avez parlé, Sabine Efos, de la création de ces grandes banques nationales de dépôt dans la seconde moitié du 19e siècle. Quel est l'esprit qui préside à la création de ces banques ?
Alors, c'est tout d'abord le financement de l'industrie. Hein. C'était l'objectif principal, par exemple, de la création de la Société Générale en 1864, mais aussi du Crédit Lyonnais, fondé par Henri Germain en 1863, ou du Crédit Industriel et Commercial en 1859. Donc, c'est financer l'industrie, bien évidemment, et non pas financer les particuliers. Hein. C'était une problématique complètement différente. Donc, financer, en fait, la croissance économique, l'industrialisation de la France, et là, y compris la seconde industrialisation, si on se projette donc à la fin du 19e siècle, notamment le financement automobile, etc., même si les entreprises françaises conservent une capacité d'autofinancement extrêmement forte, mais les banques soutiennent aussi, il faut le rappeler, les investissements publics à travers les bons du Trésor.
Et il y a une volonté qui est parfois exprimée par des fondateurs de banques de soutenir le progrès de toute la société. Il y a cet idéal-là ?
Oui, alors vous avez tout à fait raison, il y a cet idéal et puis après il y a quelques déboires. Donc le crédit foncier se heurte à une crise importante liée à des investissements trop massifs dans une affaire industriels de textiles. Et donc, il y a également des crises qui secouent les années 1880, que ce soit le krach de l'Union Générale, par exemple. Et donc, ces crises des années 1880 interpellent les banquiers sur la notion de risque. C'est-à-dire, ils ont des dépôts des particuliers, ils investissent dans des affaires industrielles, et ce risque est non négligeable. Et on voit apparaître ce qu'on a appelé la doctrine Germain, du nom du président, premier président du Crédit Lyonnais, qui vise à sécuriser en fait les dépôts des publics. Et donc, de fait, on va avoir une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, les banques d'investissement, que Hubert Bonin connaît très bien.
Une séparation qui va perdurer jusque dans les années 80, on va y revenir. Mais alors, on va avancer un petit peu dans le temps. Les banques continuent à grossir, Sabine Fosse, et au début du XXe siècle, elles lancent des opérations de démarchage pour séduire davantage de clients. L'accès aux dépôts commence à se démocratiser.
Alors, on peut difficilement parler de démocratisation au début du XXe siècle, puisqu'en fait, la banque est réservée aux personnes les plus aisées, la bourgeoisie, voire la grande bourgeoisie, qui place ses liquidités en actions, en titres divers, en emprunts d'État, en obligations. Et j'allais dire que la démocratisation passe surtout par la création des chèques postaux. Par exemple, en 1918, alors les guerres jouent un rôle non négligeable dans l'évolution du système bancaire. Et en 1918, la création des chèques postaux, qui est assez tardif en France comparé à des pays comme l'Allemagne, la Belgique, permet justement, par l'existence d'un maillage très serré des bureaux de poste, d'inciter les Français à déposer leur liquidité, pour ceux qui en ont, je rappelle encore la modestie des niveaux de vie, sur un compte chèque. Et d'ailleurs, le journal Le Temps, en 1909, dit que le chèque postal, c'est le droit au compte courant. Et ça, c'est une notion tout à fait moderne, qui met un certain temps à s'installer dans l'esprit des Français. Donc on passe par un autre réseau, c'est pas vraiment le réseau bancaire, c'est le réseau de la banque postale, pas de la banque postale, mais des chèques postaux, qui permet, y compris avec le Crédit Agricole par exemple, les caisses régionales de Crédit Agricole, de drainer ces dépôts des Français. Faut pas oublier que la France est encore un pays très rural à la Première Guerre mondiale.
Et c'est également à cette période, Sabine Fosse, que naît le monde des employés de banque, parce que les grandes banques nationales ont un besoin massif d'employés, de salariés.
Oui, tout à fait, avec la constitution du réseau, donc la multiplication des succursales que l'on connaît à l'heure actuelle. Les banques embauchent de plus en plus, et notamment de la main-d'œuvre féminine, alors qu'il n'est pas au contact de la clientèle jusqu'au début des années 1920, mais ce sont ce qu'on appelle les petites mains qui travaillent au titre, par exemple, et qui préparent les coupons pour les actions, etc. Donc effectivement, une clientèle notamment féminine, non négligeable.
Une féminisation du métier qui entraîne parfois une transformation de l'espace pour s'adapter et pour séparer les sexes, Sabine Fosse.
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Jusque dans les années 20, il y a une circulation différenciée des hommes et des femmes et pas de mélange. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, les femmes mariées n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur époux, et ce jusqu'en 1966, donc une période beaucoup plus récente. Et donc, une spécialisation des métiers avec les métiers les plus qualifiés pour réserver aux hommes, même si le secteur bancaire initie très tôt de la formation continue qui permet de gravir les échelons pour ceux qui commencent par exemple comme coursier, etc.
Et alors dans ces grands établissements, les salaires sont bas, mais on peut espérer grimper dans la hiérarchie assez facilement. L'écrivain Jean Giono a été groom dans une banque régionale au début du XXe siècle. Il le raconte dans un essai autobiographique peu connu publié en 1944 intitulé « Virgile ».
Je ne me serais pas inquiété outre mesure du costume en peigné bleu marine ni des quelques épaves exsangues qui flottaient dans le service des titres du portefeuille de la caisse, mais j'avais tous les jours le défilé de ceux qu'en moi-même j'appelais les 5-0. C'étaient des personnages dont les noms étaient inscrits sur nos grands livres en tête de crédit qui comportaient 5-0. Dès qu'on voyait pointer leur chapeau au-dessus de la vitre dépolie de la porte, il fallait empoigner vivement le bec de canne et les aider à passer le seuil, les débarrasser de leur parapluie, leur avancer le fauteuil, les fournir en côte défaussée, en ciseaux à coupons, en papier à écrire, barème et tous les etc. qu'il ne se faisait pas faute d'ailleurs de réclamer à haute et intelligible voix. Je restais discrètement à côté d'eux, dans mon costume bleu à 1000 boutons, prêt à servir, comme y obligeaient les 30 francs que je touchais chaque mois à la caisse. Nous avions affaire avec les commerçants au bord de la faillite, dont nous faisions protester les traites, avec les débiteurs dont chaque quinzaine nous relevions les noms sur des étaux spéciaux. Il m'appartenait d'aller les foyer à domicile. J'ai vu plus de billets de banque que Rothschild n'en verra jamais.
plus de billets de banque que Rothschild. Sabine Fosse, on entend bien ici le soin apporté à la clientèle bourgeoise et également le quotidien du métier d'employé de banque, sachant que Jean Giono lui-même a bénéficié de cette facilité d'ascension au sein de l'industrie bancaire.
Tout à fait. Les banques sont alors ce qu'on appelle des palais de l'argent, avec une volonté ostentatoire relativement importante. Et d'ailleurs, la question s'était posée pour la création des caisses d'épargne, pour les sièges sociaux des caisses d'épargne, qui étaient plutôt destinés à une clientèle populaire, donc aux ouvriers. Est-ce qu'on construit des sièges à l'imitation de des grandes banques, c'est-à-dire relativement luxueux ou pas? Et la réponse a été oui. Il fallait que l'argent impressionne et que les ouvriers soient aussi traités de la même manière pour apporter leur épargne. Donc là, on a vraiment un soin apporté à la clientèle bourgeoise, mais il faut savoir que c'est la même chose pour les sièges des caisses d'épargne, par exemple.
Et alors, les banques vont traverser des passages difficiles, après le krach de 29, évidemment, et après la libération. Qu'est-ce qu'on reproche alors aux banques, Sabine Fosse? Et c'est sans doute à mettre en lien au fait que les grandes banques de dépôt vont être nationalisées en 1946.
Oui, alors je vais revenir sur la période de la guerre, parce que comme je vous le disais, les périodes de guerre sont des césures très importantes pour le métier bancaire. En fait, le métier de banquier n'était pas réglementé en France avant 1941. Et donc c'est sous Vichy, avec les lois des 13 et 14 juin 1941, que le métier de banquier est réglementé, que les banques doivent s'enregistrer et qu'il y a une régulation qui s'intéresse donc à ce secteur bancaire. En 1945, vous avez tout à fait raison, le général de Gaulle et son gouvernement souhaitent que l'ensemble des liquidités du pays bénéficient à la reconstruction, et notamment à la reconstruction industrielle. Donc le crédit nationalisé, dès le mois de décembre 1946, au même titre que les assurances un an plus tard. Et donc, on a la création de deux secteurs bien différenciés, justement pour limiter les risques. D'un côté, les grandes banques de dépôt, Société Générale, Crédit Lyonnais, Comptoir National des Escomptes de Paris, etc., qui vont s'occuper principalement de financer les grandes entreprises d'État et l'État lui-même. Il faut rappeler que l'État a besoin d'argent pour financer la reconstruction, mais aussi les guerres coloniales, enfin les guerres de décolonisation. Et d'un côté, les banques d'investissement, les banques d'affaires, qui, elles, ne sont pas nationalisées. Donc, de 1945 à la fin des années 60, jusqu'aux lois de Bray, 1966, vous avez vraiment un secteur bancaire français qui se distingue entre banque de dépôt et banque d'affaires, avec évidemment une notion de risque tout à fait différente.
Alors on va voir comment les banques de dépôt, les banques d'affaires vont ensuite se rassembler, comment ces activités vont se rassembler au sein des mêmes banques. Mais d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer, Sabine Fosse, ce mouvement de bancarisation des classes moyennes à la fin des années 60 que vous évoquiez en tout début de cette émission? C'est d'abord lié peut-être à la mensualisation des salaires décidée le 10 juillet 1970?
Oui, alors vous avez tout à fait raison, la bancarisation, c'est la rencontre des Français et des banques. Alors les Français étaient plutôt réticents, ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir un compte bancaire, pour eux c'était inutile, et à peu près 15% des Français seulement avaient un compte bancaire au début des années 60. Pour les chèques postaux, ça avait commencé à les familiariser un petit peu, mais disons que vous aviez qu'un Français sur trois qui disposait soit d'un compte chèque postal, soit d'un compte bancaire qui était plutôt réservé aux cadres. Alors pourquoi? Parce que les cadres, donc on est en plein essor de la société salariale, dans les années 50 et 60, et les cadres étaient payés au mois, ce qui était les cadres et les employés, alors que les ouvriers étaient souvent payés à la quinzaine, et en espèces, hein, il y avait encore des caisses dans toutes les entreprises. Alors la bancarisation des Français passe par des mesures réglementaires, hein, c'est l'État qui décide toujours dans cette perspective de drainer les dépôts, de drainer les liquidités pour financer la modernisation économique. Donc l'État décide, dans un premier temps, de mensualiser ses salaires par la loi de 1970, les accords qui suivent les événements de mai 68, mensualisation qui est quasi effective en 1975 pour toutes les catégories socio-professionnelles. Et puis l'État décide aussi, donc par cette mensualisation, que tous les salaires de plus de, à l'époque c'était 1200 ou 1300 francs, allaient être versés sur un compte bancaire. Donc il fallait bien que l'ensemble de la population ouvre un compte. Et cette volonté de bancarisation, c'est une volonté de lutter contre la thésaurisation, une volonté de moderniser la société, c'est le grand projet de Chaban-Delmas, hein, la nouvelle société post-1968, et c'est aussi la volonté de promouvoir de nouveaux moyens de paiement. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on fait rarement le lien entre bancarisation et promotion de nouveaux moyens de paiement, mais le chèque, par exemple, qui était encore très peu utilisé en France, va être promu à cette occasion, notamment grâce à sa gratuité qui avait été instaurée dès 1943.
Et puis il y a un autre facteur peut-être qui explique l'explosion des comptes chèques, comme on les appelait à l'époque, dans les années 60, l'autorisation pour les femmes de posséder leur propre compte bancaire, vous l'avez dit, à partir de 1966.
Tout à fait. Alors, les grandes campagnes de publicité des grandes banques, que ce soit Société Générale ou BNP, envers la bancarisation des femmes mariées à partir de 1966, passent souvent par l'utilisation du compte chèque, qui est présenté comme un moyen beaucoup plus sécur, hein, beaucoup plus sécurisé de payer ses factures, etc. Donc, un moyen commode. Et le compte chèque vise aussi... Alors, il y a une politique, j'allais dire publique, de la promotion du chèque, parce que ça permet de limiter la masse monétaire en billets, hein, ça c'est important. Et puis surtout, ça permet de tracer aussi, ça c'est pour les commerçants. Hein. En France, on a toujours le souci de l'impôt et de la fiscalité. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais le chèque, ça permet de limiter, j'allais dire, des utilisations qui pourraient passer sous le radar du fisc. Donc il y a vraiment une volonté de promouvoir le chèque et les femmes sont le cœur de cible. Et là, je rappelle que les femmes travaillent de plus en plus à partir de 1965. Hein, le taux d'activité féminin progresse et ces femmes travaillent notamment dans le secteur bancaire. Donc vous avez des femmes à la fois derrière le guichet et devant le guichet.
Et dans les années 60, les réformes Debré vont libéraliser le système bancaire et mettre fin donc à cette séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est en fait la naissance de ce qu'on appelle la banque universelle, Sabine Efos.
Tout à fait. Donc là, c'est la volonté de regrouper l'ensemble des activités bancaires. C'est aussi la chasse aux dépôts, le rétablissement de la concurrence entre les banques, parce que jusque-là, entre 1945 et 1966, j'allais dire que les positions était figée. Hein. On ne pouvait pas ouvrir un guichet n'importe où. Le Conseil national du crédit visait à l'équilibre des places bancaires, alors qu'après, c'est la grande concurrence lancée entre tous les établissements avec des campagnes, par exemple, de publicité que l'on connaît tous et toutes, notamment la BNP en 1973 qui marque les esprits. Votre argent nous intéresse.
Et alors, comment comprendre que dans les années 80, Mitterrand lance la nationalisation d'un certain nombre de banques d'affaires? Comment comprendre cette décision, Sabine Efos?
Alors ça, c'est, j'allais dire qu'on revient à des fondamentaux dans la perception de la banque. La banque était considérée un peu comme coupable hein, de ne pas avoir financé suffisamment l'économie dans les années 30. On a nationalisé en 1945 et en 1982, il y avait encore l'espoir d'un grand plan industriel de la France, bon, qui évidemment a chopé. Mais il était question de rassembler l'ensemble des moyens financiers pour financer l'économie française. Et donc, effectivement, les nationalisations du début des années 80 s'inscrivent dans cet espoir de financer l'économie française, notamment la sidérurgie qui était déjà très mal en point à cette époque. Et ça a permis de sauver d'ailleurs certains établissements bancaires qui connaissaient des difficultés certaines, notamment avec la crise du crédit immobilier au début des années 80. Là, je pense au Crédit du Nord. S'il n'y avait pas la nationalisation, le Crédit du Nord aurait probablement connu quelques échecs, enfin a connu quelques échecs, mais aurait connu un avenir un peu différent.
Et c'est un petit peu plus tôt, dans les années 60, qu'on assiste vraiment à l'explosion du crédit. Le crédit à la consommation, mais aussi le crédit à l'achat immobilier, Sabine Efos.
Alors effectivement, là vous revenez à la rencontre des Français et des banques, vous avez tout à fait raison. Le crédit immobilier, ça a financé la grande vague de reconstruction immobilière de la France dans les années 50 et 60, mais ça passe principalement par le monopole du Crédit Foncier de France, qui avait le monopole des crédits à long terme, jusqu'à la création du marché hypothécaire en 1966, date à laquelle les grandes banques de dépôt se sont lancées, dans la mesure où elles étaient sécurisées dans leur approvisionnement en liquidité, dans le financement des prêts immobiliers pour tous. Et quant au crédit à la consommation, c'était dans les années 50 des établissements financiers spécialisés comme la Sofinco et le CTLM. Hein, Sofinco est créé en 51, CTLM en 1953. Donc c'est resté quand même pour le crédit à la consommation principalement un crédit délivré par des établissements hors banque jusque dans les années 1970. Pardon, et ensuite, les banques se sont emparées progressivement de ce crédit à la consommation. Mais les banques, vous avez tout à fait raison, faisaient déjà du crédit personnel, notamment pour les catégories socioprofessionnelles supérieurs, les cadres, dès 1959. Donc le crédit immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à partir des années 1970, délivré par les grandes banques.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Sabine Efos, peut-être un dernier mot sur la financiarisation de l'économie qui va encore transformer le métier de banquier à partir des années 80-90.
Alors tout à fait, au milieu des années 80, donc on passe davantage à une économie de marché, où le financement bancaire, en tout cas pour les activités économiques régressent place au profit du financement de marché, et donc sur le modèle anglo-saxon. Donc là, on a une évolution, et pour les particuliers, en revanche, on a une bancarisation qui s'achève, hein, c'est-à-dire que le grand tournant des années 1966-1976, après la décennie, tous les Français sont bancarisés dans ces années 1980, et le crédit aux particuliers augmente, principalement crédit à consommation avec des problématiques de surendettement que vous aviez abordé il y a quelques mois, je crois, sur Vivre à Crédit.
Absolument, et on va parler jeudi des nouveaux défis des banques confrontées à la concurrence des banques en ligne et aux nouveaux paysages réglementaires. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du procès des dirigeants de la banque Barclays qui s'est ouvert il y a quelques jours en Grande-Bretagne.
Absolument. Mercredi dernier, s'est ouvert le procès des principaux responsables de la banque anglaise afin de juger leurs agissements au moment de la crise financière de 2008. Ce sont ainsi l'ancien directeur général de la banque, le directeur de la banque au Moyen-Orient et quelques autres pontes de la City qui ont été mis en accusation par la justice britannique. Surnommé procès de la finance par les tabloïds anglais, cette mise en accusation fait suite à plus de 5 ans d'enquête de la part du Serious Fraud Office, équivalent britannique de notre parquet financier, un procès inédit qui devrait durer 4 à 6 mois pour juger ces banquiers de complicité de fraude et d'assistance financière illégale.
Tout commence en octobre 2008 lorsque le régulateur financier donne 8 mois à la banque pour lever 10 milliards de livres.
Oui, pour ainsi dire, mission impossible pour les banquiers de Sa Majesté alors que Lehman Brothers vient de s'effondrer et que la panique commence à saisir les marchés financiers. Il est donc nécessaire d'agir et vite. D'autant que le pouvoir britannique n'a pas ménager ses effets en menaçant horreur suprême de nationaliser la banque en cas de défaillance de sa part. Une nationalisation qui aurait signifié de sérieuses limitations à leur pouvoir, ainsi que la fin de leurs opulents bonus. Et le pouvoir ne bluffe pas, mi-octobre, le Premier ministre Gordon Brown a annoncé la nationalisation de Halifax Bank of Scotland et de la Royal Bank of Scotland qui avaient péché par excès et sombré la première. Les Golden Boys de Barclays vont néanmoins trouver une solution en se tournant vers les monarchies du Golfe dont on connaît la prodigalité proverbial. En réalité, ce sont les derniers acteurs qui acceptent de prêter d'aussi importantes sommes en pleine tempête financière.
C'est ainsi le Qatar qui a fourni près du tiers des 11 milliards de livres rassemblés par la banque.
Exactement, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opération n'a pas été gratuite. Conscients d'être quasiment les seuls à pouvoir renflouer la banque, les Qataris ont pu exiger des contreparties tout à fait vertigineuses. Ainsi, le 12 octobre 2008, le tout-puissant patron des affaires moyen-orientales de la banque, Anthony Jenkins, reçoit dans sa demeure de Mayfair une délégation de haut vol venue expressément du Qatar pour discuter des termes de l'accord. Entre la poire et le fromage, la question des compensations dévolues aux généreux donateurs est abordée. Les banquiers anglais proposent 120 millions de livres, les Qataris préféreraient 600 millions. Après d'âpres discussions, les envoyés du Golfe repartent avec une promesse de 322 millions de livres, somewhere in the middle, comme diraient nos amis d'outre-Manche.
Le problème, Arjuna, c'est que ces commissions ont été versées au détriment des autres investisseurs.
Mais oui, pris par la panique de voir leur institution tomber aux mains de l'État socialiste, les dirigeants de la banque se sont empressés de ficeler un accord dont il n'était pas certain aujourd'hui qu'il soit tout à fait légal. Ils élaborent ainsi une convention dite d'assistance-conseil qui leur permet de grassement rémunérer leurs investisseurs providentiels. Le Premier ministre du Qatar lui-même est remercié pour ses bons services par un généreux pourboire. Une commission que le Serious Fraud Office qualifie aujourd'hui d'occulte et qui pourrait bien coûter leur liberté à ses instigateurs. Ceux-ci risquent ainsi jusqu'à 10 ans de prison. Une première outre-Manche où aucun des protagonistes de la crise n'avait eu à rendre de compte devant la justice. On peut donc s'interroger sur le battage médiatique qui est fait autour de ce procès dit de la crise de 2008, qui ne concerne en réalité que les actions postérieures au déclenchement de celle-ci. Interroger aussi l'intérêt de braquer les projecteurs sur un tel événement alors que les responsables de la crise et de ses conséquences concrètes, pratiques sur la vie des gens courent toujours.
Lend me 10 billion quid. Why'd you look so glum? Was it something I did? So I caused a second great depression. What can I say? I guess I got a bit carried away. If I say I'm sorry, will you give me the money?
The Complete Bunker de The Divine Comedy. Merci beaucoup Sabine Efos et Hubert Bonin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Pour aller plus loin, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Hubert Bonin, La banque et les banquiers en France du Moyen-Âge à nos jours, paru aux éditions Larousse. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Bordeaux qui ont assuré ce duplex. On se retrouve demain pour une émission consacrée au nouveau rôle de la Banque Centrale Européenne. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. From somebody's loss.